Et au retour du confinement, bah, j'ai un peu changé ma vision des choses en me disant, bah, voilà, on a été privé de courses pendant quasiment un an, on ne sait pas si ça va reprendre, ça ne va pas reprendre, et je fais les courses qui me font plaisir et j'y vais. Et peu importe, bah, si j'en fais une, j'en fais deux, j'en fais trois dans le week-end. Donc effectivement, l'année dernière, ils étaient entre les deux, j'avais pris 58 dossards dans l'année.
Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Pour ses 40 ans, on l'avait mise au défi de courir 40 trails en un an, elle en a fait 58. Cette semaine, j'accueille Alexia Coudray, passionnée de sport outdoor et accessoirement professeure de PS. Vous l'entendrez, Alexia dégage une énergie folle. On sent clairement que le trail, tel qu'elle le pratique, c'est ce qui l'a fait vibrer. Je me suis régalé à en apprendre plus sur ses stratégies de course, j'ai souri en entendant les anecdotes d'épreuves qui l'ont marqué, et j'ai bu ses paroles quand elle a partagé en fin d'épisode les 3 leçons qu'elle retient de plus de 10 ans de pratique. Alexia est également membre de la team Simalp, le sponsor de cet épisode. Simalp, c'est une marque française créée en 1964 par des amoureux de montagne pour des amoureux de montagne. Ils conçoivent des équipements de trail, d'alpinisme, de ski ou encore de rando, donc c'est assez varié, mais ça reste toujours dans l'univers de la montagne. Ils mettent l'accent sur la technicité, la durabilité, l'innovation et l'accessibilité de leurs produits, ce qui est plutôt pas mal pour nos portefeuilles. Personnellement, j'adore le matos outdoor, je réalise des tests pour plein de marques différentes depuis plus de 10 ans, donc je reconnais un produit de qualité quand j'en ai un entre les mains. Dans le cas de Simalp, j'ai eu l'occasion de partir en montagne avec plusieurs de leurs pièces emblématiques. Première couche, veste isolante, veste étanche, short, pantalon, et franchement, ça n'a été que de bonnes expériences. Les produits sont bien pensés, c'est robuste, et en plus, c'est français. Un détail que j'adore, ce sont les pictogrammes qui présentent les caractéristiques techniques de chaque produit, isolant, étanche, anti-odeur, etc. Ce qui est super pratique si, comme moi, vous commencez à avoir pas mal de vêtements outdoor dans vos placards et que vous vous y perdez. Simalp commercialise en direct sur internet, ce qui leur permet d'offrir des tarifs très compétitifs. Donc foncez faire un tour sur leur site simalp.fr, C-I-M-A-L-P.fr. Excellente écoute à vous les frappés.
J'ai la chance d'avoir pas mal la bougeotte, donc je fais pas mal de sport à l'extérieur, pas mal de montagne l'été, etc. Et ouais, je m'occupe en faisant des activités tout au long de la journée. Voilà. Trop donc bien. Là, ce matin, bah, par exemple, juste avant de t'avoir, je suis allée faire un tour de gravel, qui est ma nouvelle passion.
Ah, excellent, excellent. Ouais. Ah, mais alors là, c'était, j'avais forcément plein de questions sur le trail, mais si tu me lances sur le gravel, on va en parler aussi.
Ouais.
Nouvelle passion, parce que pourquoi c'était, tu cherchais un entraînement complémentaire à la course à pied ou quelqu'un t'a emmené là-dedans? Comment ça s'est fait?
Alors, en fait, avant de faire du trail, je faisais du raid multisport. Ah, voilà, j'en ai fait pas mal, notamment le Raid in France, qui a été l'apothéose. Et je faisais énormément de VTT. Et après, j'ai basculé un peu plus sur le trail, donc j'ai mis le raid de côté. Et c'est vrai que le VTT, bah, j'ai mis de côté aussi. Mais j'ai gardé, je me suis mis beaucoup au vélo de route en complément du trail. Et il y a un mois, bah, c'était aux dernières vacances, un peu plus d'un mois, j'ai un ami qui m'a proposé une sortie gravel découverte, et notamment avec un vélo un peu spécifique où il y a une petite fourche bien sympathique qui fait un mix entre ben, le VTT et le vélo de route. Et j'ai trouvé ça mais juste extraordinaire. Et dans la foulée, j'ai revendu mes vélos et j'ai acheté un gravel. Voilà. Et depuis plus d'un mois, ça gravel à fond. Ouais.
Trop bien.
Ouais.
Mais parce que toi, tu vis à Bédouin, hein, c'est ça?
C'est ça. Donc, au pied du Ventoux, et j'ai énormément au niveau terrain de jeu, ça me permet de redécouvrir encore une autre façon le Ventoux et ses environs avec le
Mais
gravel.
parce que t'as de quoi rouler en gravel au Ventoux.
Ah, en fait, rien que le bas du Ventoux, pour sinuer entre les routes, les sentiers, etc., il y a énormément de choses à faire. Il y a les dentelles de Montmirail aussi qui sont pas loin. Il y a les ocres de Mormoiron et ça. Il y a une infinie de possibilités
Ok.
de parcours où ça passe de route, chemin, piste. Voilà, donc c'est ouais, c'est vraiment génial. Ouais.
Ok. Bah, tu vois, j'aurais pas cru parce que j'ai fait. Je me suis lancé dans les courses accompagnateurs moyenne montagne. Là, il y en a une dans la liste des courses obligatoires, imposées, qui est l'ascension du Ventoux. Alors, je crois que
Par les
c'est.
graviers blancs?
Ouais, de mémoire, ouais. Et franchement, le terrain, enfin, ça m'a surpris, tu vois. Je m'attendais pas à ce que, surtout la fin, ce soit aussi pierreux.
Ouais, ah bah le Ventoux, le sommet du Ventoux, oui, c'est
C'est
un gros tas de cailloux.
lunaire, hein. Ouais. Mais et tu vois, et en descendant, j'ai pas croisé énormément de DFCI ou autres. Donc, mais bon, j'y suis allé qu'une fois. Hein, mais
Là, il
intéressant,
faudra revenir.
tu vois là-bas. Voilà.
Voilà. Mais il y a plein de choses à faire. Ouais. Et puis, connaissant, enfin, ayant pas mal barulé aussi en trail, c'est vrai qu'il y a plein de sentiers. Je me dis, mais ça passe en gravel, ça passe en gravel. Donc, l'autre jour, je suis allée expérimenter ça. Alors, il y a des moments où j'ai un peu plus. Peut-être porter le vélo parce que ça passait
Ouais.
pas, mais ça fait partie aussi de l'activité. Mais j'ai pu explorer des sentiers que je fais d'habitude en courant avec le vélo. Et
Trop
ça, c'était
bien.
plutôt chouette. Ouais.
Trop,
Voilà.
trop bien. Et t'es parti sur quel modèle, par curiosité?
Alors, c'est un Cannondale, c'est le Slate.
Ok.
Parce
Ok.
qu'on m'a fait essayer celui-là et j'ai adoré. Et on m'a trouvé le même modèle que celui que j'avais essayé et je suis partie avec celui-ci. Voilà.
Génial. Génial. Excellent. Bon, ça fait bonne petite parenthèse, mais ta pratique donc de cœur, ou en tout cas celle qui te prend le plus de temps, sur lequel tu t'alignes au départ du plus grand nombre de courses, c'est pas encore le gravel, peut-être,
Non.
qui sait. C'est plutôt c'est le trail
Oui.
sur des formats. Alors quand j'en parlais, j'ai eu Marie de Simalp, Florian, il n'y a pas très longtemps. Donc je leur expliquais que voilà. On allait enregistrer tous les deux. Il me dit, ah, mais Alexia, tu vas voir, c'est une mordue de trail. Alors, il y en a un qui m'a dit que tu avais pris 30 dossards sur une saison, l'autre qui m'a dit que c'était 50. Alors, du coup, je te pose la question, tu vois, t'as quel niveau enfin, combien de courses est-ce que tu fais habituellement sur une saison
Alors,
et sur quel format?
ouais. Alors, pour te répondre sur les formats, j'ai commencé le trail, ça fait un peu moins de 10 ans en fait. J'ai toujours fait du sport parce que mes parents m'ont initié à ça. Ma maman était prof de PS aussi et je suis devenue prof de PS. Après, j'ai toujours fait un petit peu de tout. Je me suis un peu spécialisée pour comment dire mes études dans le handball et le tennis. Et puis, il y a une dizaine d'années. J'ai basculé sur autre chose, j'ai voulu changer un petit peu à mes 30 ans. J'ai découvert pas mal les sports nature grâce à une amie, tout ce qui est montagne, ski de rando, alpinisme, etc. Et naturellement, avec le raid, je me suis tournée un petit peu vers le trail aussi. Et je sais pas, j'ai commencé à aimer ça. Et puis, même les résultats sont arrivés assez rapidement alors que j'avais aucun potentiel à la base là-dessus. Et ouais, depuis 2015, on va dire que ça s'enchaîne pas mal. Donc, j'ai monté un petit peu crescendo en commençant par les courses de village qui sont autour de chez moi, les petites courses nature. Et puis en 2018, je me suis lancée sur le Challenge et Trail de Provence. Donc, c'est des formats plutôt autour de 25-30 km maximum que j'ai fait 3 fois et que j'ai gagné 3 fois. Donc, ça, c'est plutôt mes formats habituels. Et au retour du confinement, j'ai un peu changé ma vision des choses en me disant, voilà, on a été privé de course pendant quasiment 1 an, on ne sait pas si ça va reprendre, ça ne va pas reprendre. Et je me suis dit, au retour du confinement, je fais les courses qui me font plaisir et j'y vais. Et peu importe, si j'en fais une, j'en fais deux, j'en fais trois dans le week-end. Donc effectivement, l'année dernière, ils étaient entre les deux, j'avais pris 58 dossards dans l'année. Et cette année, là, ce week-end, hier, j'étais avec Florian, justement, dans le Pilat. Mais la veille, j'avais fait un semi sur route, les Gorges de l'Anesc. Et hier, c'était mon 30e dossard depuis janvier.
Punaise,
Voilà.
ok.
Donc oui, mordue, voilà. Mais je suis une mordue de dossard, comme on dit, de course, d'adrénaline, de rencontre des gens, de rencontre de lieux, voilà, découvrir de nouveaux paysages. Mais je suis pas une accro, on va dire, de l'entraînement. J'ai pas de coach déjà. C'est moi, je fais au feeling et je le fais vraiment à la sensation. Quand j'ai besoin de travailler un truc, bah, je sors. Ou alors c'est bah, comme ce matin, c'est du gravel, ça va être de la rando l'été, montagne, ça va être un peu de grimpe. Voilà, c'est essayer de varier au maximum les activités. Mais c'est vrai que le week-end, bah, c'est un peu le leitmotiv. T'accroches le dossard et on y va, quoi. Voilà.
J'avais échangé avec une autre, comment dire, raideuse du coup.
Oui.
Ouais. Daphné De Rouche.
À De Roche, je crois que c'était Daphné Nadoulek, mais
non. De Rouche, ouais. Et je sais plus si elle avait fait le Raid in France et qui disait qu'il avait finalement la même approche que toi. C'était bah, en fait une approche au feeling, au plaisir. Pas de programme d'entraînement, pas de coach nutrition ou je sais pas quoi ou technique ou autre. C'était elle, son leitmotiv, c'était j'ai un boulot qui me prend déjà suffisamment de temps et de charge mentale. Le sport, c'est pour me faire plaisir, donc j'y vais avant tout pour ça. Comme quoi, ça peut marcher très bien puisque tu nous as parlé du trail de Haute-Provence, enfin du trail de
Challenge et trail de Provence.
Challenge et trail de Provence, j'ai trail de Provence en tête parce que
oui, c'est
ça. Je me suis inscrit il n'y a pas longtemps. Voilà. Ouais. Ça en fait partie.
Le THP, il en faisait partie ouais, à un moment donné. Et okay, je crois okay. que cette année, il y était encore. Ouais.
Voilà. Ok, bah, je viens de prendre un dossard pour la version hivernale, 40 km.
Oui,
fin novembre.
Au mois de décembre. Oui. Ouais, bah, novembre, j'espère décembre. Pour toi qu'il ne fera pas trop moche parce que la montagne de mur, ça pique.
Bah ouais, on verra. Ok, donc déjà 30 dossards depuis le début de l'année, 58 l'année dernière. Tu dirais qu'au-delà de cette envie d'en profiter au maximum, parce que ce que tu expliquais, voilà, la sortie du Covid, on ne savait pas si ça allait revenir ou pas, mais. Au-delà de ça, qu'est-ce que tu trouves dans ces formats, alors j'ai pas envie de dire courts, parce que 25-30 bornes, c'est pas non plus super court, mais tu vois, j'ai souvent des invités qui ont une espèce de montée assez rapide dans les distances et qui cherchent ça justement. Toi, qu'est-ce que tu trouves dans cette approche du trail qui reste sur des formats voilà, jusqu'à 30 km à peu près?
Alors, moi, l'intérêt, souvent, on m'a posé la question, hein, mais pourquoi tu allonges pas? Parce qu'au bout de 3-4 ans, les gens, ils passent sur du 45, 50, voire au-delà. Moi, ce qu'il y a, c'est que bah, la course, comme je t'ai dit, à la base, c'est pas mon activité préférentielle non plus. Avec ces formes-là, ça me permet à la fois de rester sur des efforts qui sont de courte durée, on va dire entre 2h30, 3h, voire 4h, si le format est vraiment technique, avec beaucoup de dénivelé ou quoi. Donc, ça reste des formats où l'intensité d'engagement, parce que quand je m'engage sur une course, comme je t'ai dit, c'est pour y aller à fond. Et la concentration sur 3 heures, 4 heures, ça passe encore. Mais au-delà, j'ai du mal à rester focus sur ma course. Je me lasse un petit peu. Et après, c'est surtout que, ben, du coup, avec des formats courts, je peux en enchaîner plusieurs dans le week-end ou même dans la journée. Des fois, ça peut être le matin et le soir, c'est une petite course ou quoi. Ça demande moins de récupération, moins de préparation. Donc, comme on disait au feeling, c'est que sur des formats courts, quand on reste sur du moins de 30 bornes, en fait, les courses le week-end, moi, me servent aussi d'entraînement. Voilà. Ouais. Et dans la semaine, je peux faire autre chose. Ou même chose, c'est-à-dire que dans le week-end ou dans la journée, le matin, je peux aller courir. Et l'après-midi, si on me dit, on va faire un tour de vélo, on va faire ci, on va faire ça, je ne suis pas complètement à plat et je peux enchaîner une autre activité. Donc, ça me permet... voilà, d'être plus dans la variété. Et je pense aussi qu'au niveau des blessures, parce que quand on passe sur du long, moi, j'ai beaucoup d'amis où il y a le syndrome de l'essuie-glace, il y a des tendinites, enfin, il y a beaucoup de choses qui apparaissent à cause justement de la durée d'effort qui est demandée pour les distances, qui font que bah, moi, j'ai pas envie de subir ça. Voilà, j'ai 41 ans, je suis encore à peu près préservée et j'ai pas envie de me flinguer en faisant... du 50 bornes et me dire je vais en faire deux dans l'année et après terminer. Voilà.
Ouais, ouais.
Ça me frustrerait plus qu'autre chose. Donc il y a ça, il y a vraiment cette intensité qu'on peut mettre sur un format court que l'on ne mettra pas sur un format long où on va être plus sur de la gestion et de la rando-course. Et après, je parle à mon niveau, hein, pas au niveau des champions où eux ils sont sur de la course tout le temps. Mais voilà, et ça, moi, prendre un dossard pour faire une rando-course, je préfère y aller avec des potes comme on va faire ce week-end, on va faire la traversée des Calanques pour l'anniversaire d'une copine, eh ben, on va le faire en montrant nos courses. Et ça, oui, mais je ne prends pas un dossard pour faire ça, quoi.
Ouais, voilà. Ok.
Mais après, c'est ma vision.
Ouais. Mais c'est super intéressant, tu vois, cette approche par rapport à la blessure. Je pense que spontanément, je n'aurais pas pensé justement par rapport à ce que tu viens d'évoquer, l'intensité. Tu vois, c'est-à-dire que, bah oui, j'imagine que sur tes courses, enfin, sur des formats plus courts, le rythme est beaucoup plus soutenu. Donc, potentiellement, tu me dis si je me trompe, hein, mais sur terrain technique, tu vois, j'aurais pensé vitesse moyenne du peloton, en gros, peut-être beaucoup plus élevée. Donc, il faut être aussi beaucoup plus vigilant parce que, oui, c'est plus court, mais potentiellement plus exigeant. Donc, j'aurais pas forcément pensé à la blessure, tu vois, c'est super intéressant.
Moi, je parle pas de la blessure spontanée, c'est-à-dire la blessure qui va arriver, malheureusement, ça peut être sur du court ou sur du long, ou en sortant dans la rue, c'est-à-dire on se fait une cheville parce que le pied qui se pose au mauvais endroit, etc. Ça peut arriver sur n'importe quel format. Moi, je pense plus sur la blessure à long terme, c'est-à-dire l'usure qu'on fait du corps pendant, parce que je l'ai vécu sur le Raid in France. Je me suis pas blessée, mais mon corps a souffert pendant. On a fait 130 heures de course quand même d'affilée, et là c'est des rétentions d'eau, le corps aussi, le sommeil qui est complètement déréglé parce qu'on fait des micro siestes, on continue tout le temps. Au niveau de l'alimentation, c'est pareil, au début on se fixe des sachets repas quoi pour dire on va manger ça, mais finalement le corps comme il est en perpétuel activité, ce qu'on avait prévu, ça passe pas, ou on a envie d'autre chose et on mange n'importe quoi, n'importe comment. Donc, il y a tout un dérèglement qui se fait quand on est sur du long. Ceux qui font de l'ultra-distance, on le voit, ils font des fois 24, 40, 40 heures de course. Donc, dans la gestion au niveau du sommeil, de l'alimentation, etc., il y a des choses qui se passent et qui, après, je trouve... quand on revient à notre vie quotidienne, parce que c'est pas notre métier, hein, comme tu l'as dit, c'est compliqué. C'est compliqué. Mmh. Alors que sur du court, on va prendre une compote et une barre et basta, c'est parti. On va pas se soucier à se dire, alors il faut que je prévoie ça, à tel moment, il faut que je mange comme ça. Voilà. Et que ce soit en amont, pendant et après, c'est pas le même sport. Voilà. Mmh. Et je trouve que le long, c'est plus. Pour moi, ça me semble plus traumatisant que faire du court. Mais après, ceux qui vont du long, ils vont dire, je peux pas courir comme tu fais parce que c'est trop rapide, c'est trop intense. J'ai dit oui, mais moi, j'aime pas courir longtemps parce que, c'est pareil. Voilà.
Ouais. Mais alors, peut-être pour creuser un peu sur la partie entraînement, donc t'expliquais que c'est au feeling, au plaisir. Est-ce que t'as quand même dans les grandes lignes, tu vois, des items sur lesquels tu fais attention, tu vois, la puissance, le cardio, le volume. Est-ce que tu gardes comme ça, tu vois, certains repères en tête pour déterminer à peu près ton niveau, ou bien est-ce que tu fais tellement d'épreuves que finalement c'est chaque week-end que tu regardes un peu aux sensations, etc.
Alors, je te dirais que maintenant je me connais tellement que je sais exactement ce dont j'ai besoin pour le jour J. J'essaye dans l'année de me fixer, on va dire, 2-3 courses un peu phares. L'année dernière, par exemple, j'avais fait la première, c'était la Full Moon, le Full Moon Trail. Donc, c'était une longue distance pour moi. Donc, c'est pour ça que j'avais cumulé un peu des dossards avant pour faire du volume, comme on dit. Voilà, à faire 2-3 courses dans le week-end ou à faire 2 courses plus une sortie vélo pour faire du volume et arriver à peu près... préparé pour la Full Moon. Alors, il n'y avait pas beaucoup de dénivelé, donc je n'ai pas eu besoin de faire non plus de gros entraînements montagne, etc. Ça, c'est venu après.
Pardon, Alexia, juste, je te coupe, mais s'il y en a qui ne connaissent pas, c'était la première édition l'année dernière, Aix-Marseille de nuit. Donc, c'est un peu
Alors, moi, du coup, j'avais fait le parcours intermédiaire. Donc, c'est un ami, Eric Razzoli, et son ami Eric Planchat qui ont lancé ça l'année dernière en disant, on va faire une Saint-Élion mais par beau temps. Voilà. Et c'est de rallier effectivement Aix à Marseille avec une arrivée sur le Vieux-Port et au lever du soleil. Et la particularité aussi, c'est que la date change chaque année en fonction de la pleine lune. Donc, effectivement, l'année dernière, Eric m'a convié à faire la première édition. Mais je n'ai pas fait la grande partie, on va dire, j'ai fait la moitié. Donc nous, on partait de Bouc-Bélair pour rejoindre Marseille. Et elle faisait donc 38 km. Donc déjà, pour moi, ça commence à être costaud. Donc il y avait cette première étape. Après cette première étape, je m'étais inscrite au championnat de France en open à Salers, qui était 30 bornes avec du dénivelé là cette fois-ci. Donc entre la full moon et les championnats de France, j'ai fait des courses avec un petit peu plus de dénive, pas forcément plus longue, mais avec un peu plus de dénive, donc notamment sur le Challenge des Trails de Provence. Après, j'avais fixé en août, j'ai fait la première édition aussi de l'expérience Trail Courmayeur. Donc là, c'était 15 bornes, 1007 de D+. Et tout l'été était dédié à ça, c'est-à-dire que j'ai fait plein de courses montagnes pour déjà m'habituer. J'ai fait des kilomètres verticaux, j'ai fait beaucoup de rando aussi montagne qui m'ont permis d'arriver préparée pour ça. S'en est suivi après la grande trace du Dévoluy que j'ai fait avec Lauriat Zeni. Donc même chose, c'était dans la continuité, course sur 2 jours. Alors j'avais déjà fait la Pyramenta il y a 2-3 ans avec Marilyn Nakache du team. Et après ça clôturait par la Skyrune que je voulais faire aussi absolument. Donc la saison elle est en fonction des 2-3 courses comme ça un peu item, un thème qui vont ponctuer ma saison parce que un peu importante et un peu plus prestigieuse on va dire. J'essaie de caler mes courses et des sorties si j'en ai besoin qui vont me permettre d'arriver prête pour la course J. Mais te dire je prévois ci, je prévois ça. Non, c'est. Je sais qu'à un moment donné, je manque un peu, par exemple, de dénivelé. Je vais aller faire ça. Je manque un petit peu de vitesse. Je vais mettre un 10 bornes sur route pour reprendre un peu de jus. Voilà. Et je la joue plutôt de cette manière-là.
Ok. Super intéressant. Ok. Sachant que sur la partie, donc là on parle plutôt de la partie préparation physique, mais sur des épreuves où tu disais voilà maximum 4 heures si c'est technique, côté mental, est-ce que c'est suffisamment long déjà pour côté des ces fameux yo-yo, tu vois, j'en parle souvent, j'en parlais avec Florian quand on a enregistré où il expliquait que ce qu'il aime bien dans l'ultra aussi, c'est finalement ce travail un peu d'introspection que tu fais tout le temps ou peut-être que ça va pas du tout pendant une heure et puis en fait les 2 heures suivantes c'est l'euphorie puis ça retombe. Est-ce que tu retrouves aussi ces cycles-là, tu vois, mentaux de up and down sur tes courses ou est-ce que justement l'enjeu, comme elles durent moins longtemps, c'est d'être à bloc 300% énergie positive du début à la fin?
Alors, ça va peut-être sembler bizarre, mais effectivement, il y a les up and down. Alors, okay. Sur du 10-15 bornes, non. Mais quand on passe sur du, je dirais au-delà de 20 à 25 bornes, j'ai ce moment où on est plus ou moins à mi-parcours où il y a un peu cette phase, oh là là, j'ai fait que la moitié. Bon, et tu okay. Me dis, ah, et encore la moitié. après, il y a les phases aussi en fonction de… Moi, j'étudie énormément les profils de course. Quand c'est des courses que je ne connais pas, je me renseigne beaucoup sur le terrain, si c'est un milieu que j'ai jamais, dans lequel j'ai jamais couru, pour n'avoir aucune surprise. En fait, j'ai mentalisé ma course avant de la faire. C'est-à-dire que je sais que du kilomètre temps au kilomètre temps, ça va être comme ça, ça va monter, ça va descendre. Si je connais pas le terrain, je me suis renseignée avant pour savoir si c'était plutôt de la piste, plutôt du monotrace, caillouteux, chemin lisse, etc. Ce qui va me permettre aussi de gérer mon effort, moi, par rapport à la totalité de la course. Et pendant ces phases de up and down, j'ai appris à le gérer de cette manière-là. Moi, je fonctionne pas mal à l'affect aussi. C'est-à-dire que je me remémore pas mal de messages qu'on a pu m'envoyer quand ce sont des courses importantes, notamment en me disant… Ah ouais, attends, il y a tous les gens derrière toi qui t'ont envoyé des ondes positives et tout, donc je m'en nourris énormément. Ou alors, j'essaie de prendre des images de ma famille, mes neveux, mes nièces, avec le smile pour se remettre un petit peu dans le move à dire, mais non, c'est dur pour toi, mais c'est dur pour tout le monde, donc ça va passer. Des fois, il y a un peu des moments où on peut essayer de se réconforter en disant, bon, allez, prends un petit bout de compote ou un petit bout de bar, ça va te nourrir. Et c'est vrai que La nourriture fait que bah, ça permet de libérer certaines endorphines ou quoi qui vont faire passer un petit moment de plaisir, qui vont redonner un petit coup de boost. Et après, ça permet de relancer un petit peu la machine si on va dire que le corps suit. Parce que des fois, on est dans le down parce que bah, on n'est pas bien physiquement. Mmh. Parce que bah, ce jour-là, les feux ne sont pas tous au vert et que bah, on subit plus qu'autre chose. Et que là, c'est bah, au mental. J'ai jamais abandonné une course. J'ai toujours terminé une course. J'ai jamais fait de DNF. Ça, pourtant, il y a eu deux ou trois fois où j'ai cru que j'allais jeter l'éponge, mais j'ai jamais fait. En disant, bah ouais, bah, t'as signé, t'es là, t'es pas blessé, t'es pas rien, mais tu continues d'avancer. Mais oui, on a ces phases de up and down aussi. Enfin, moi, je les ai en tout cas sur certaines courses où faut passer le cap et puis après, ça repart.
C'est,
okay. C'est okay. Mentalement être suffisamment fort et dire non mais ouais ça va pas mais ça va revenir ou pas mais tant pis personne t'a forcé à être là, c'est toi qui l'as choisi, donc bah, tu continues et puis le but du jeu c'est d'arriver, tant pis premier, dernier, mais au moins t'as fini, voilà. Sauf blessure évidemment qui fait qu'on peut plus avancer.
Ok. Et au-delà de ces, alors ces stratégies que tu évoquais, tu vois, de te remémorer en positif des messages, etc., qu'on appelle les stratégies de coping, donc plutôt en réaction à une situation, est-ce que tu as un schéma mental aussi que tu suis avant de prendre le départ, juste avant, tu vois, le coup de feu? Est-ce que tu as un rituel, tu vois, des habitudes, je ne sais pas, toujours la même paire de chaussures, le premier? Tu vois, le lacet droit que tu fais en premier, est-ce que tu as ce genre de choses que tu mets en place?
Alors, au tout début, quand j'étais sur le Challenge des Trails de Provence, sur les premières années, ouais, c'était la veille ça, pas faire ci, manger ça, le petit-déj, c'était toujours le même, les fringues, c'était toujours plus ou moins toujours les mêmes trucs. Et j'avais un bœuf fétiche que j'ai porté pendant extrêmement longtemps, mais maintenant qui malheureusement ne ressemble plus à rien. Voilà, mais sur les premières années, toutes les photos de course, j'ai toujours le même bœuf sur la tronche. Donc, ce bœuf-là, je ne le porte plus parce que maintenant, je trouve qu'il ne... Mais par contre, il reste au fond du sac. C'est-à-dire que je le mets dans le sac d'hydratation ou il est dans la voiture ou quelque chose. Après, niveau alimentation de ça, maintenant, comme j'en fais tous les week-ends, voire plusieurs, je pense que j'ai passé ce cap. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des petites choses. Après les rituels, c'est je suis assez fan de cryothérapie. Donc en préparation, je soigne pas mal la récup et la prépa aussi. Hein. Voilà, sur mes courses, j'y vais pas en mode non plus, même si je bois des bières avant ou après. Voilà, ça fait partie de la récup et de la prépa. Mais je suis beaucoup à l'écoute de mon corps et c'est vrai que je fais des cryos en préparation et en récupération. Et depuis peu de temps aussi, j'ai ajouté de la pressothérapie.
Voilà. La pressothérapie ?
Ce sont les bottes compressives là, qu'on met qui permettent voilà, de favoriser le drainage. Ça équivaut à un massage, plus ou moins, pour permettre une récupération plus active et plus rapide au niveau des jambes parce que je n'ai pas une super circulation. Et comme je te disais pour le raid, j'ai plutôt les jambes qui ont tendance à gonfler après un effort. Donc là, le fait de drainer... et de l'activer par rapport à des méthodes comme ça, ce soir, je vais en faire une, par exemple, de cryo, pour m'aider à éliminer tous les derniers déchets qui peuvent rester dans l'organisme. Voilà.
D'accord. OK.
Mais oui, comme tout le monde, on a nos petits... nos petits tocs, moi, je dirais.
Ouais. Excellent. T'évoquais une course en particulier, la Pierra Manta.
Oui.
Donc, course de ski alpinisme. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dû discuter à un moment donné avec quelqu'un qui l'avait fait. Quand j'entends le nom de cette course, j'ai l'impression que j'ai les poumons qui brûlent, tu vois. Je me dis,
alors,
ce genre de course, quand tu fais ça, tu as le cardio à 4000.
Ouais, je ne l'ai pas faite en version hiver, hein. Je l'ai faite en version été.
Ok. Voilà. Mais ce qui doit déjà être, côté dénivelé, tu as combien en été?
Nous, c'était le ratio, attends que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est 70 km sur 3 jours et 8000. Ouais. Wow. En gros, ouais. Le premier jour, on a fait, alors premier jour, c'était 25 et 2003 ou 2004. Le deuxième jour, on a eu 30 et 2008, presque 3000. Et le quatrième jour, c'était 14 bornes et 1008, je crois.
Voilà. Ouais, donc là, tu cours pas sur 14 bornes 1008, non ?
Non, après, c'est ce qu'il y a, c'est que les pentes sont très raides. Donc, c'est beaucoup bâton et marche rapide, marche rapide, marche rapide. Après, il y a des sections pour relancer. La Pyramenta, c'est dès que ça peut courir, il faut courir parce qu'il y a un tel niveau que bah, si on fait que marcher, c'est pas possible. Hein,
ouais,
voilà.
Ouais.
Et non, non, ça a été une fabuleuse expérience. Bah, avec à l'époque, c'était pas encore une coéquipière si mal. Elle est rentrée par la suite avec Marilyn qui m'avait proposé ça. On s'était rencontrés un an avant. Et quand elle m'a proposé la chose en me disant bah, « Écoute, j'ai un ticket pour la Pyramenta, est-ce que tu veux le faire avec moi ?» J'ai fait « Non, mais elle s'est trompée de numéro, là.
»
Parce qu'on connaît tous le palmarès de Marilyn, ouais, ultra-traileuse. Enfin, bon. Alors, parce que moi, je suis fondue, mais je pense que ma coéquipière est aussi fondue que moi, voire plus. Et c'est vrai que quand elle m'a proposé ça, sur le moment, j'ai dit non, mais tu rigoles avec moi, c'est pas possible. Elle m'a dit si, on le fait et tout. Et c'est vrai que ça a été une aventure fabuleuse. Et si à ce moment-là, on m'avait dit que, je ferais la Pyramenta avec Marilyn, qu'on fasse podium sur cette course mythique, mais. Enfin, voilà, c'était juste inimaginable. Inimaginable.
Et qu'est-ce qui fait que c'est arrivé d'après toi ? Parce que c'était un travail d'équipe, mais visiblement elle s'est pas trompée sur la coéquipière à embarquer dans l'aventure. Donc tu penses que c'est comment est-ce que vous avez fait la différence ?
Je pense que finalement c'est bien complété dans le sens où on n'avait jamais couru ensemble. Voilà, hormis une sortie rando trail qu'on avait faite avec des amis dans les Calanques. Mais sinon on n'avait jamais fait de duo, jamais fait de course en relais, etc. On s'est pas mal parlé au début pour dire en fonction de l'une et de l'autre comme on avait fait en raid hein, pour mettre les choses au clair et que surtout le binôme ne clash pas pendant l'épreuve. Elle savait qu'elle était au-dessus de moi, que pour elle 30 bornes c'est rien du tout. Elle a fait sa sortie de d'échauffement, on va dire, alors que moi j'étais au bout de ma vie. Mais le but du jeu, c'était que on n'a pas utilisé les liches parce que il fallait pas qu'elle me mette dans le jus non plus. Donc, on est parti sur une stratégie où elle se mettait plus ou moins à mon niveau et elle m'a dit, écoute, premier jour, on voit comment ça se passe. On fait la course, on part dans un rythme assez soutenu, mais voilà, pas non plus à bloc. On se cale derrière les premières filles qui gagnent cette édition-là et qui avaient gagné la première étape. Et on arrive à l'issue de cette première étape. Bon, je dis, c'est passé, c'est cool et tout. Elle me dit, mais attends, tu étais à l'aise, demain, c'est bon Peanuts, quoi. Je dis, attends, il y a encore 2 jours, demain c'est 30 bornes, moi tu vas me perdre. Donc, mollo. Donc, effectivement, le deuxième jour, j'en ai bien bavé, voilà, mais c'est passé, on est arrivé troisième. Et le dernier jour, elle m'a dit, ça c'est ton format, 14 bornes, c'est pour toi, c'est toi qui gères. Donc, j'ai fait toute la gestion de course pour justement me mettre à hauteur des nanas avec qui on a joué pendant ces 3 jours. Et la stratégie a payé parce que il y a 2 équipes qui ont joué avec le leash, qui ont mis à bloc leur coéquipière. Et finalement, nous, on sort en deuxième position au sommet de la plate. Et dans la descente, on redouble la première équipe et on gagne l'étape. Voilà, vraiment sur la gestion, je pense, de cette dernière course. Et ça, ça a été extraordinaire. Enfin, la dernière étape, moi, je m'en rappellerai toute ma vie. Hein. C'était l'euphorie à l'arrivée. Ouais. Donc, je pense vraiment c'est d'avoir été à l'écoute. Et puis, on est 2 filles aussi qui se prennent pas la tête, qui se partagent les mêmes valeurs. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi. Elle m'a dit, mais j'y vais pas pour faire un résultat. J'y vais vraiment pour le partage, pour vivre cette épreuve-là, la Pyramenta. Et ça me servira aussi de bloc d'entraînement puisque cette année-là, elle avait fait fin août l'UTMB.
Ok, d'accord. Voilà. Okay.
Donc, elle s'en servait plus en mode entraînement, alors que moi, c'était vraiment en mode compétition et pas décevoir, et les deux associés, ça a fait une belle aventure. Ouais.
Génial. Ouais. Bon, moi, je pense qu'on en parlera avec elle. On a dû décaler l'enregistrement, mais elle arrive bientôt sur les frappés aussi.
Ah, cool.
Alors, tu disais que voilà, sur les le premier jour, son feedback, c'était bah voilà, t'es à l'aise, il faut qu'on fonce. Toi, t'as un peu mis
le frein.
Le frein en disant que voilà, il restait des jours à gérer. Donc, ça me fait penser. Enfin, du coup, ça déclenche une question sur cette notion de comment est-ce que tu gères ton engagement. Je crois que c'est Kylian Jornet qui avait fait. J'avais lu un article où il expliquait qu'à un moment donné, il enchaînait tellement d'épreuves que l'enjeu, en fait, c'était d'arriver à gagner les courses sans être à fond pour se préserver pour les suivantes. Toi, tu as un rythme méga soutenu aussi, plusieurs courses par week-end assez régulièrement. Comment est-ce que là aussi, c'est au feeling? C'est-à-dire, s'il y a des courses où tu sens que ça va, bah, tu es capable de dire j'y vais à 120% et je donne tout, même s'il y en a d'autres qui arrivent derrière. Ou est-ce que tu fais toujours un peu attention à être à, je sais pas, X% de ton max, justement pour pas te blesser dans la durée, pour continuer à prendre du plaisir, etc.
Alors, il y a eu les deux côtés, c'est-à-dire qu'avant que j'enchaîne comme ça autant de dossards, c'est vrai qu'entre les courses, je prenais suffisamment de temps de récupération parce que sur une course, j'acceptais pas de pas finir première. C'était maladif, c'est-à-dire il fallait que je sois au top du top et gagner. Donc là, je m'engageais à 2000% parce qu'il fallait gagner. Et le fait là d'enchaîner les dossards, c'est vrai que je suis plus en mode gestion à me dire, bah, je me fixe, je refais aussi des courses que j'ai déjà faites ou c'est des formats que je connais avec le dénivelé, etc. Donc maintenant, je pars plutôt sur une petite fourchette de temps sur lesquels je veux rentrer. Par exemple, hier au Pila Trail, j'avais regardé le chrono de la gagnante de l'année dernière, qu'il avait gagné en 2:30. Et j'ai dit, voilà, tu as fait ton semi la veille de la NESC. Écoute, on va essayer de le rentrer en 2:30, 2:40 max. Et donc, j'ai géré ma course. J'ai vu la première partir, mais vraiment à une allure. J'ai dit, mais c'est juste pas possible pour moi. Donc, tu la laisses filer. Il y avait une autre nana, celle qui finit troisième, parce que c'était des filles que je ne connaissais pas, avec qui je n'ai jamais couru. Donc, quand c'est comme ça, je pars un peu dans l'analyse. Donc, la première qui est partie, j'ai dit, ça, c'est impossible à suivre. C'est pas pour toi. L'autre, j'ai joué pendant 2-3 kilomètres avec elle. C'est-à-dire que elle a commencé le tour de ville et elle m'a doublé. J'ai dit, on va voir. Première montée, ça commence un petit peu à ralentir. Moi, je sors les bâtons et je commence à mon rythme parce que mon point fort, on va dire, c'est les montées. Hein, en trail, moi, j'adore le dénivelé. Je la double, puis arrive le replat et la première petite descente. Et là, je la vois revenir sur moi sur cette première descente, mais à bloc. Je dis, oula, déjà, elle descend bien, donc va falloir se méfier. Et on va voir si ça tient dans la durée aussi, parce que sur quand on part sur 21 km, 3 km, ça ne veut rien dire. Donc, se réenclenche la deuxième montée où ça part un petit peu fort. Et puis, même chose, au bout de 10 mètres, avec mon rythme, bam, je la double et je la dépasse. Arrive un petit replat et une descente. Et puis, à l'issue de cette descente, elle n'est pas derrière moi. Donc, je me dis, déjà… Elle a un peu lâché par rapport à la deuxième montée. Il y a moins d'engagement, elle a moins pu revenir. Et j'essaie de faire ça sur des courses justement où les nanas, je vois que ça joue un petit peu, pas des coudes, mais ça joue un petit peu le même niveau que moi. Je me dis, bon, on ne va pas s'affoler, on va essayer de tester, voir comment elle réagit sur des courses. Moi aussi, comment je réagis quand elle accélère, si je suis obligée de lâcher trop de force ou quoi. Et je construis un petit peu ma course par rapport à ça. Et hier, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, à l'issue de cette deuxième descente, quand j'ai vu qu'elle revenait pas, je dis bon, toi, t'es bien, tu continues à imprimer du rythme et on va voir au fur et à mesure si tu arrives à creuser l'écart. Et effectivement, sur les virages un petit peu enlacés ou sur des zones où je pouvais contrôler derrière, je voyais que elle n'était pas revenue. Et puis, sur un grand lacet, j'ai vu qu'elle était vraiment loin, qu'elle devait être au moins en temps estimé, au moins à 2 minutes. Mais après, rien n'est fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si elle se sent mieux, qu'il y a une partie plus roulante, etc., où elle peut revenir, et qu'on se dit non, mais c'est fait, 2 minutes, allez, on continue. Voilà. Donc hier, moi, j'ai essayé de gérer comme ça, c'est-à-dire faire une première partie de course un peu test. Et puis après, moi, en fonction de comment je me sentais, continuer à garder le rythme pour creuser encore plus l'écart. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'à la fin, je crois qu'on a un peu moins de 4 minutes de différence. Okay. Voilà. Et c'est vrai que sur les courses, j'aime bien jouer comme ça dans la gestion, justement en fonction de moi, mon état de forme. Je me connais suffisamment, les parcours, je sais comment les appréhender dans les distances que je connais. Et effectivement, c'est dans la gestion, dans le sens où ben, je suis dans le chrono que je me suis fixé. Hier, je suis rentrée en 2:30, un peu moins de 2:31 parce que c'était 2:30-54. Donc, je suis dans le tempo. Après, ça fait première, ça fait deuxième, ça fait troisième, ça fait quatrième. Bah, peu importe, mais au moins, je suis dans ce que je m'étais fixé comme objectif. Donc, ouais, c'est plus de la gestion. Et puis après, ben, les résultats maintenant, enfin, les podiums, ben, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, si je suis encore dessus, ben, c'est bien. Mais si je me suis dépassée, je suis allée au bout de moi-même dans le sens où je rentrais dans les critères que je voulais pour réussir une belle course, c'est-à-dire profiter, ne pas subir, être dans un chrono pas trop dégueulasse et avoir pu profiter de l'environnement qui nous était offert, bah, je pense que c'est tout bon, quoi. Voilà. Et on l'apprécie d'autant plus de cette manière-là que quand on se fixe un truc, il faut gagner, là, on part avec une pression pas possible. Ouais. Même si ça n'empêche que hier, Flo m'a dit, Alex, plaisir, détends-toi. Mais voilà, il y a quand même l'enjeu. Comme je te disais, on met un dossard, c'est pas pour enfiler des perles non plus.
Voilà. ça t'est déjà arrivé de frôler l'explosion en vol, de partir vraiment trop fort, emporté par, je sais pas, l'ambiance d'une course, une concurrente que tu connaissais pas, peut-être à un moment donné où tu avais justement moins d'expérience?
Alors, me laisser emporter dès le départ, non. J'ai eu des phases, comme je disais, j'ai jamais abandonné une course, mais il y en a eu 2-3 qui ont été compliquées parce que à mi-course, j'étais mais vraiment pas bien physiquement, au bout du rouleau, plus de jus, plus voilà. Où là, c'est pas la faute de mes concurrentes, c'est moi physiquement qui ai une défaillance. Et après, je dirais, c'est plus si une fois où j'ai failli un peu faire pop-corn et j'ai dit on ralentit. C'était même pas. Elle va me détester, hein, mais c'est quand j'ai couru les duos de l'Ermitage avec Laure, des murs, du team, où elle fait une heure d'échauffement, alors que moi, l'échauffement, c'est 5 minutes à trottiner devant l'arche, et puis on y va. Elle est partie à Mach 12, et moi, j'étais au rupteur, et au bout de 5 kills, j'ai fait Laure, on ralentit, parce que là, tu vas me perdre, et on va pas pouvoir finir la course. Et donc, j'ai dit, non, mais t'inquiète. Donc, les filles qui étaient devant nous sur ce duo-là, c'était Marion Delespierre et Caroline. Caro, je l'avais vu courir l'année d'avant. Et j'ai dit, non, mais une dernière montée. Écoute, elle avait explosé là l'année dernière. Si on reste plus ou moins à distance, on verra dans la dernière montée ce que ça donne. Mais si je continue à cette allure-là, moi, je vais exploser. Donc, elle a ralenti, on a géré la course. Et effectivement, c'est passé ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans cette dernière montée sur les duos de l'Ermitage sur la chapelle, qui est très raide et qui arrive en fin de course, eh ben, on les a doublés là et on gagne cette première étape. Mais voilà, la seule fois, je pense, où j'ai failli exploser au rupteur, c'est parce que je n'étais pas sur mon rythme, j'étais sur le rythme de ma coéquipière. Mmh. Voilà. Et à Sabine, cette année, je lui ai bien dit, je veux pas que tu sois pénalisé ou quoi, mais je dis, mais moi, ma course, elle monte crescendo et si tu me fais partir à bloc, c'est mort, quoi. C'est mort. Donc, on a adopté cette stratégie-là où elle s'est mise un peu en retrait. Après, elle m'a remis un peu du rythme, mais sans trop non plus. Mais ouais, je pense que je sais comment partir pour monter crescendo pendant ma course. Effectivement, quand on court en duo, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on a chacun nos allures, que ce soit au départ, au milieu ou en fin de course, qui sont différentes. Et s'adapter à l'autre sans faire exploser son coéquipier, c'est pas ouais. forcément évident. Et c'est à ce moment-là de savoir le dire pour justement terminer de la plus belle des manières, parce que si l'un ou l'autre n'écoute pas, c'est sûr que ça part au clash, quoi. Voilà.
Au-delà de la communication, comment est-ce que tu, en quoi est-ce que la façon dont tu vis la course est différente quand tu pars en duo versus quand tu es solo ? Parce que tu fais vraiment majoritairement du solo.
Oui.
Donc est-ce que tu vois d'un point de vue, je pense notamment à la vigilance sur l'état de l'autre, est-ce que tu fais attention, est-ce que tu arrives quand même à être vraiment dans ta course, dans ton effort, dans ton ressenti, ou est-ce que le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre t'oblige un petit peu à sortir de ta bulle et à garder un œil sur elle, comment elle va, son rythme, est-ce qu'elle s'alimente, etc. Mm-hmm. Comment tu le gères, ça?
Eh ben, tout dépend en fait dans quelle situation on se trouve, si on est la personne un peu ric-rac ou si on est la personne au-dessus. Ouais. L'année dernière, la grande trace, la coéquipière avec qui j'ai couru, Laurie Adzeni, elle n'est pas sur des formats courts, elle est sur des formats longs. Et la grande trace, c'est des formats plutôt courts avec beaucoup de dénivelé. Ça ressemble à la Pyramenta, hein. C'est le même principe, sauf que c'est sur 2 jours. Et à la base, donc, ce qui était annoncé, c'était 20 bornes 2000. Donc, pile dans mes cordes. Sauf que, briefing de la première course, c'était 29 bornes et 2000. Et là, j'ai fait 29. Donc, moi, j'ai un peu fait ça, alors que ma coéquipière a fait ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a été super complémentaires parce que la première partie de course, c'est moi qui ai été vigilante sur elle, à demander ça va pas trop vite, machin, etc. Alors que sur la deuxième partie, où à partir du 24-25e, où moi je commence à être un peu oxy, c'est elle qui a pris le relais et qui a été vigilante par rapport à moi. Et donc vraiment, ça dépend le statut dans lequel on se trouve. Est-ce qu'on subit? Ou est-ce qu'on est au contraire à l'aise? Et le lendemain, c'était un format plus pour moi, puisque c'était 24 et pareil 2000. Et là, c'est plus moi qui étais à l'écoute. Par exemple, je prenais ses flasques, j'allais les remplir pendant qu'elle continuait un petit peu. Je la rattrapais pour justement l'aider et la soutenir à ce moment-là. Ce qu'a fait aussi Marilyn quand elle était avec moi, elle me prenait mes flasques, elle allait en avance, elle me remplissait mes flasques, etc., pour perdre moins de temps et me soulager et me décharger, comme tu dis, mentalement, d'une tâche. Voilà.
Ok.
Mais j'ai vécu les deux, c'est-à-dire que quand moi je suis bien, je suis vigilante à lui dire ça va, t'as bu, t'as mangé, est-ce que tu veux qu'on ralentisse, est-ce que tu veux qu'on mette le leash, est-ce que tu veux ci, est-ce que tu veux là. Et inversement, j'ai eu la même chose quand j'ai couru avec Florian. Sur les duos de l'Ermitage, puisque les deux premières éditions, je les ai faites avec lui. Flo, c'est ça, quoi. C'est papa poule. Hein. C'est prends une sportelline, tu veux une barre, tu as assez bu. Voilà. Donc, la vigilance, je pense, se fait de la part de la personne qui n'est pas dans le rouge, à veiller à ce que son coéquipier aille bien pour aller jusqu'au bout de la course. Et c'est le but du jeu, hein, comme on dit, on part à deux, on arrive à deux. Et moi, je suis assez vigilante, je suis beaucoup dans l'empathie parce que même dans les courses, je ne suis pas focus sur ma course. Je discute beaucoup avec les gens. Des fois, on fait des morceaux ensemble quand on a le même rythme et ça permet de déjà penser à autre chose, de discuter pendant peut-être 5 minutes, mais ce n'est pas grave. Ça permet de savoir aussi peut-être si la personne ne va pas bien, est-ce que tu as besoin de quelque chose ou, Mais la vigilance, je pense, dans le trail, ça. C'est quelque chose qui est pas automatique, mais les gens sont assez bienveillants, je trouve, dans cette activité. Tout comme dans le raid, de porter assistance. Et puis, les organisateurs le rappellent bien souvent en début de course, en disant, s'il y a quelqu'un devant vous, qui se blesse ou quoi, vous n'êtes pas là pour le piétiner. Le but du jeu, c'est de s'arrêter, de prévenir les secours, quitte à perdre la course, mais on s'en fiche. La vie de quelqu'un ou la santé de quelqu'un est bien plus préoccupante que
un chrono,
c'est qu'un chrono. Parce que si c'est la même chose pour nous, on est content que la personne s'arrête et prenne soin de nous ou se préoccupe de ce qui se passe. Ouais. Et malheureusement, je pense que dans notre société, c'est ce qui manque, c'est qu'on est devenu tellement individualiste que plus personne ne fait attention à plus personne. Et qu'il y a des choses qui se passent dans la rue où personne n'intervient alors qu'on trouve ça juste aberrant. Et s'il y avait un peu plus de gens qui se souciaient de ce qui se passe autour et de comment vont les gens, quand on voit que des fois, rien qu'un sourire ou dire bonjour, ça égaye la personne qu'on croise, qu'on ne connaît pas du tout, mais de suite, elle répond par un sourire, on se dit si plus de gens faisaient ça, je pense que la Terre irait un petit peu mieux aussi, quoi.
C'est clair. Distribuer des sourires. Allez-y.
Ouais, voilà. Et des hugs.
Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur la relation dans le duo, tu vois, par rapport à celui ou celle qui dans l'instant est au-dessus, etc. Ça me fait penser quand même un peu à une notion d'ego, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi être, l'enjeu, c'est aussi d'être capable de dire, là, je vais pas bien, là, je suis en sous-rythme. Tu vois ce que tu as fait, ce que tu expliquais avec, que tu as fait avec Laure au bout de 5 km, tu lui as dit, attends, stop. Je pense que c'est pas forcément un exercice très facile quand t'es pas habitué, tu vois. Moi, je sais que des fois, quand je vais courir avec des copains ou quoi, si le rythme est trop soutenu, j'ai plutôt tendance à me dire, attends, c'est bon, je vais pas saouler tout le monde, je suis en forme, tu vois. L'ego rentre un petit peu en jeu, alors que c'est une erreur, une grosse erreur, je pense. Mais méga intéressant.
Mais je pense que ça vient aussi pas mal de ma pratique en montagne, parce que j'ai fait beaucoup d'alpinisme à une époque. Et l'alpinisme, c'est tu donnes ta vie et la personne avec qui tu es, ton coéquipier ou ta coéquipière de cordée, te confie aussi sa vie. Et c'est qu'à un moment donné, si tu ne dis pas les choses parce que tu n'es pas bien ou parce que tu ne sens pas la situation, bah, tu peux amener à avoir un accident ou à mourir. Et on ne peut pas dire non, non, mais ou même dans. Tu penses que ça passe par là en ski de rando ou quoi, c'est beaucoup dans la communication justement parce que même celui qui mène, il faut qu'il soit en doute et dire mais attends, je te demande ton avis, est-ce que tu penses qu'on passe par là ou plutôt par là, parce que moi j'ai vu ça, est-ce que toi aussi, ouais non ça devrait, oui non mais tu as peut-être raison, peut-être passer plutôt de ce côté parce qu'effectivement bah, là il y a eu un peu de vent, si ça. Et puis en alpinisme, quand on est sur bah, des sorties voilà, de des fois 7, 8, 10 heures, 15 heures de course alpine, on a des moments de up and down où il y a des moments où on n'est pas bien et que vu la situation, le lieu où on se trouve, si on n'est pas bien, il faut le dire parce que l'accident ouais. est tellement vite arrivé, on n'a pas droit à l'erreur. Et ça, je pense aussi que ça m'a permis de beaucoup apprendre sur moi et de pas dire non mais c'est bon je dis rien ça va passer, ben non si ça va pas faut le dire. Et je pense que c'est pour tout pareil dans son métier, dans sa vie amoureuse, dans sa vie amicale, de dire les choses quand ce sont des choses qui sont véridiques et qui ont un fond, on les entend, tout le monde peut entendre. Après, ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire parce que, bah, à ce moment-là, ah ouais, mais moi j'avais envie d'envoyer, il fallait qu'on court à ce moment-là. Mais oui, mais ok, toi peut-être, mais là, tu n'es pas seul, tu es avec quelqu'un. Et que si tu as décidé d'être avec cette personne, eh ben, il faut être à l'écoute. Et ce coup de mou, c'est toi qui aurais pu l'avoir ou c'est l'autre personne. Et de faire ce jeu des balances permet d'équilibrer le couple, en fait. Et le raid, c'est aussi ça. C'est qu'en équipe, on donne la carte à l'orienteur, comme on dit. Il peut faire des erreurs, mais si c'est moi qui avais eu la carte, j'aurais pu faire la même ou j'aurais pu faire pire. Donc, il faut accepter que la défaillance, l'erreur font partie de l'activité et que si on ne le prend pas en compte, à ce moment-là, soit on fait les choses solo sans rien, sans demander rien à personne, soit on fait rien, voilà.
Ouais. C'est exactement ce qu'on s'était dit sur la PTL dans l'équipe. On s'était dit, il y en a un qui a la carte, les autres font pas de commentaires en fait. C'est soit t'as la carte, soit tu te tais.
C'est ça.
Parce que voilà. Sinon.
Et au Raid in France, nous c'était, il y avait un orienteur, c'est lui qui l'avait. Il y avait son binôme entre guillemets qui était là dans les phases où la lucidité au bout de X heures de course des fois peut varier. Il demandait conseil ou confirmation au deuxième, mais moi avec mon autre coéquipier on n'est jamais intervenu sur la carte. Ouais. Ah non. Et puis rentrer dans une carte alors que on n'a rien vu du début ou de la fin, ça veut strictement rien dire parce qu'on n'est pas du tout lucide par rapport à ça, ou prendre la carte, non il faut que la personne soit du début à la fin immergée totalement voilà dedans. Et nous, on n'a rien à dire là-dessus. Et après, elle peut effectivement se tromper parce que l'erreur est humaine. Donc, voilà.
Clairement.
Et il faut être humble par rapport à ça.
Oui, complètement d'accord. Pour faire un petit focus, tu parlais des moments de up and down que tu as aussi dans des épreuves un peu plus courtes que parfois certains invités que je reçois. Du coup, ça m'amène une question sur la nutrition. Est-ce que tu manges systématiquement en épreuve, au cours de l'épreuve, ou ça peut varier? Est-ce que ça t'arrive de faire une épreuve où tu bois simplement, mais tu t'alimentes pas du tout?
Tout dépend. Quand ce sont des formats ultra courts, mais par exemple avec beaucoup de dénivelé, comme j'avais fait l'ETC, je suis obligée parce que je sais que je vais passer une certaine barrière horaire. Par exemple, sur un 15 bornes, je peux ne pas manger quand c'est un 15 bornes qui va vite. Juste de l'hydratation suffit. Par contre, quand je sais que je pars sur un nombre d'heures un peu plus conséquent, même si le format est plus court, je vais me forcer à m'alimenter. C'est-à-dire
OK.
que je veux que mon corps ne soit jamais en déficit, que ce soit énergétique ou même au niveau de la lucidité. Parce qu'on sait que ben, quand on commence à plus être vaillant sur les jambes, c'est aussi parce que dans la tête, ça ne va pas. Et que ben, le cerveau, c'est un muscle hein, et qu'il a besoin aussi de carburant pour fonctionner. Et pour garder cette lucidité, il faut lui donner, bien évidemment, à manger. Donc, généralement, je prends un peu de solide et des compotes, voilà aussi qui passent mieux. Parce que comme je suis vraiment sur des formats courts, bah, c'est plus facile à ingérer que les barres. Mais hier, par exemple, j'ai pris une compote et une demi-barre sur les 21 km avec deux gommes. Voilà pour juste relancer, enfin, pas relancer, avant justement d'avoir besoin de la relancer, pour. Que mon corps constamment ait de l'énergie et que ce soit pas les jambes qui ramollissent et me dire ah mais attends t'as pas mangé ou t'as pas bu ou t'as pas si qui fait que tu as les jambes qui flagellent. Donc j'essaie de voilà de séquentialiser ma nutrition on va dire à partir de 30 minutes 35 minutes quand je sais que ça va aller au-delà d'une heure hein, d'effort à prendre bah, par exemple une demi-compote un petit bout de barre voilà, et de séquentialiser comme ça tout au long de la course pour amener de manière perpétuelle de l'énergie à mon corps. Et en hydratation, c'est pareil. Je ne bois pas beaucoup. Par exemple, je peux faire des sorties en rando trail où je ne prends pas d'eau, ça ne me dérange pas. Par contre, quand je suis en course, je me force justement à boire. Donc, j'ai deux flasques. Ça ne fait pas beaucoup, hein. Généralement, ça me fait au total 500 millilitres. Donc, hier, j'avais deux flasques pour 2 h 30 d'effort. J'avais 500 millilitres et j'ai pas tout bu. Mais ouais, dans les flasques à l'arrivée, il m'en restait encore. Mais je me force continuellement à boire des petits bouts de petits coups d'eau, enfin eau mélangée avec un petit peu de poudre là, pour ben justement ne pas avoir de crampes, etc. Et j'utilise pas mal la sporténine aussi pendant les courses que je mets pour éviter toute crampe ou courbation. Ouais. Voilà.
Super intéressant. Ce qui m'amène à une autre question, on va dire technique. Donc, tu as fait, bah là, au final, entre cette année et l'année dernière, tu es quasiment à 100 courses. Donc, c'est clair que tu vas dépasser. Donc, tu fais plus de 100 courses en 24 mois, en fait, habituellement, non? Si tu as tout le temps ce rythme-là, à peu près.
Ben, l'année dernière, ouais, 58, là
58, cette
30.
année déjà
Là,
30.
l'objectif, c'est d'essayer peut-être. C'était un délire hein, l'année dernière. Ils m'ont dit, ouais, pour 40 ans. Moi, j'avais dit, ouais, 40 ans, 40 courses. Et puis, bon, ben. Voilà, ça a été un petit peu plus. Et puis, cette année, les gens se sont pris au jeu quand ils ont vu tous les dossards que je prenais. Ils ont dit, ouais, cette année, c'est bon, t'as atteint les 60. Bon, je suis à mi-parcours, je me dis, c'est peut-être réalisable. Voilà.
Donc en tout cas, ouais, la barre des 100 franchie en 24 mois, donc c'est quand même énormissime. Et puis au-delà de ces 2 années, tu le disais, tu as plus de 10 ans de pratique maintenant derrière toi. Ce serait quoi peut-être le top 3 des apprentissages que tu as eu? Parce que ça fait beaucoup de départs pris, beaucoup d'arrivées, beaucoup de périodes up and down gérées, beaucoup de nutrition, des centaines d'heures passées sur des sentiers. S'il y avait peut-être un top 3 des apprentissages que tu as fait au fil des ans, des choses que tu as modifiées, que tu fais aujourd'hui, que tu ne faisais pas quand tu t'es lancé dans la discipline, tu dirais que c'est lesquelles?
Alors, que je ne faisais pas. Alors, au début, tout ce qui est, on parlait de nutrition. Moi, au début, quand j'ai commencé la course à pied, c'était, je prenais un camelback avec le tuyau, là, ben, comme tout le monde, et on a commencé comme ça. Sauf que, en fait, je m'apercevais que je ne buvais jamais. Je suis passée au flasque parce que je vois ce que je bois. C'est là et présent. Et pareil, en nutrition, c'était bon, il y a combien? Il y a 20 bornes. Bon, bah, à 10 bornes, on va prendre une barre. Allez, voilà. Donc, il n'y avait aucune séquentialisation, aucun. Donc, j'ai appris à m'alimenter et m'hydrater pour justement pouvoir gérer une course de la meilleure des manières sans avoir de baisse de régime et être, on m'appelle le métronome et être régulière tout au long de ma course. Voilà.
Ok.
Donc, apprendre à. Ça, c'est une des premières choses que j'ai appris entre le début et maintenant. C'est savoir s'alimenter, il y a avant, pendant et après aussi la course. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné aussi, j'ai basculé un peu j'ai perdu énormément de poids. Voilà, parce que pour moi, c'était il faut peser tant pour être performante et pouvoir m'aligner et courir à telle allure. Et. Le confinement a fait que changer un petit peu aussi d'état d'esprit. Je me suis beaucoup remise en cause. Pourquoi tu courais? Quelle motivation, etc. Et qui a fait, mais pourquoi tu t'infliges ça? Donc j'ai repris du poids et je vois que je suis pas moins performante, voire meilleure, et que je peux encore plus enchaîner. Donc je dis, bah ça, voilà, c'était là-dedans, comme beaucoup de choses, voilà, qu'on se fixe, comme les tocs de début course, etc. Donc je pense j'ai appris beaucoup sur l'alimentation, voilà ce dont moi j'ai besoin et pas ce que les gens te disent que parce qu'il y a la part des choses aussi à faire, c'est il y a tellement de choses autour de la course à pied, du trail, du running, etc. que les gens ils disent oui mais il faut les entraînements, il faut faire ci, il faut faire ça, en alimentation, il faut que tu prennes ci, alors la boisson d'avant, la boisson d'après, la boisson du pendant. La pasta partie, pas pasta partie, les étirements, pas les étirements. Non, mais toi, en fait,
La bière, pas la bière en
ouais. Oh,
récup.
bon, moi, c'est avant, pendant, après. Hein. Alors là, non, pas pendant, hein, je rigole. Mais avant, pendant, après, oui, il n'y a pas de souci. Donc, c'est toi, de quoi tu as besoin par rapport à ce que tu fais au niveau alimentation et hydratation. Il y en a, ils vont avoir besoin peut-être sur 20 bandes de ne pas manger. Bah, ok. Moi, j'ai trouvé cette solution-là. Voilà, j'ai testé et de trouver ce petit truc de mettre des petits moments où je prends un petit bout, si ça, et ça me permet d'avoir mon rythme et ma forme pendant toute ma course. Donc, je dirais la première des choses, c'est ça. J'ai appris à gérer mes courses. En fonction de toutes les expériences que j'ai vécues au niveau alimentation et hydratation. Après, j'ai beaucoup appris aussi, ben, finalement, sur, j'appelle ça, travaille ton mental de coquillette. Et
Ça m'intrigue,
que,
ça.
en fait, voilà, on croit toujours que, ouais, non, mais j'y arriverai pas. Moi, je me dévole, enfin, dévalorise beaucoup. Je suis toujours en doute, hein, même encore actuellement, mais moins qu'avant. C'est comme c'est arrivé comme ça, la course à pied, sans vraiment de prédisposition. Je m'aligne sur une course, que ce soit la course du village ou la course n'importe la Skyrun ou quoi, j'ai un peu le même stress. Maintenant, en cumulant autant de dossards, j'arrive plus détendue quand même sur les arches de départ. Mais voilà, apprendre à se canaliser et à se dire, non mais. C'est toi qui as choisi, tu es capable, tu as déjà fait, tu te connais, tu sais que tel format de course, ça te correspond, donc tu es capable de faire en tentant, en gérant de telle manière, et que si tu vas au-delà de ce format, bah, tu sais que tu vas aller plus ou moins pas au clash, mais que tu vas en chier plus que d'habitude. Donc c'est qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi tu le fais? Moi, c'est rester sur des formats courts, prendre du plaisir, pouvoir enchaîner, rencontrer des personnes, découvrir. Plein de paysages entre samedi où je cours à les gorges de la Nesque, semi sur route, et puis le Pila le dimanche, je passe mais dans deux mondes opposés, entre des gens qui font de la route, donc c'est les pistards, on les connaît tous, voilà, c'est pas du tout le même monde que le trail, et puis le lendemain, aller courir dans le Pila, dans une ambiance euphorique, voilà, avec les musiques de départ, ça, on voit que ça en trade. La musique de départ avec ils mettent je sais plus qui là en hard rock et tout, voilà, qui met une ambiance de départ. Mais ça en route, ils sont tous comme ça avec leurs lunettes, prêts à partir, le chrono, prêts à te défoncer et à t'écraser au début. Donc, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est varier ce type d'expérience. Donc, je dirais, voilà, la deuxième chose, c'est ça, c'est j'ai appris à me connaître et à savoir, moi, ce que je voulais et pas ce que les autres voudraient que je fasse et rester dans cette ligne directrice. Et puis après, la dernière chose, c'est toutes les rencontres et tout ce que j'ai pu faire grâce à la course à pied, quoi. Ça, c'est énorme. Voilà. Et d'avoir pu, bah, bien évidemment, à travers ça, d'avoir pu intégrer le team Simal, quoi. Et c'est depuis 5-6 saisons, c'est juste énorme, quoi, de vivre chaque année, que ce soit les regroupements, les courses en duo qu'on fait, ou même entre nous, des fois, on se retrouve, voilà, on est 2-3. Moi, j'ai eu fait avec Laure, on a fait en 2 jours. La traversée des glaciers de la Vanoise en rando trail. L'autre fois, il y a Sabine qui est venue avec d'autres copines et on a fait l'ascension du Ventoux pour travailler du D+. Voilà, c'est des moments de partage aussi qui font que la Simal Family, elle existe vraiment et la course à pied, c'est une grande famille, ouais. Voilà.
Génial.
Donc,
génial.
D'avoir trouvé une autre famille.
Ouais. S'il y en a qui ne sont pas encore pratiquants de trail, je pense qu'après un échange comme ça, j'espère en tout cas, ils iront s'acheter une paire de chaussures.
Ben, au moins qu'ils essayent, parce que moi, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, mais vraiment par hasard, pour mes 30 ans, en me disant « Alex, tu n'as jamais couru à part au cross du collège, du lycée. Allez, tu ne vas pas mourir bête. À 30 ans, je me suis inscrite aux 10 km de Melun parce que c'était la course quand j'étais en région parisienne pour mon boulot de prof débutante. Et puis, j'ai mis le doigt là. Hein, et puis, depuis, je te montre un truc. Tu vas voir, voilà, j'ai 3 classeurs. Avec, depuis, ça, c'est mon TOC aussi. Je garde tous les dossards.
Ah ouais.
Voilà. Depuis le début.
Énorme.
Donc, j'ai tous les dossards, tu vois, depuis le début de ma course. Et le premier, il est là. Celui de Melun, le 560.
Oh, finesse. C'est une super idée, ça.
Voilà. Donc, sur tous les dossards, je garde la date, la distance. Voilà. Je ne sais pas ce que j'en ferai plus tard. J'en sais rien, mais... c'est tu parlais des TOC, voilà, mon TOC, c'est je garde tous les dossards. Il peut y avoir une tombola où tu mets le dossard. Non. Je ne donne pas mon dossard pour la tombola. Voilà. Mais je pense qu'il faut essayer une fois parce que même sans dire oh, la course à pied, c'est chiant. Oui, c'est sûr que si on y va une fois comme ça, c'est jamais hyper agréable parce que on crache ses poumons, on a mal aux jambes, on a mal partout. Et même quand on court beaucoup, on a encore mal, voilà aussi. Mais c'est tellement une activité qui permet d'apprendre, à, je pense, avant tout à se connaître. Parce que la course à pied, c'est ça, c'est se battre avant tout contre soi-même. Je veux dire, le premier défi, c'est qu'on se fixe. C'est pas d'arriver, enfin, le podium et les machins comme ça, ça concerne une infime partie de la population de coureurs. C'est pas ça. Le but du jeu, c'est pourquoi je suis là et pourquoi j'ai décidé de le faire. Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est d'être avec des copains? Est-ce que c'est de participer à un événement reconnu, dire j'ai fait Marseille-Cassis l'année dernière, je m'étais dit non, la route, jamais, etc. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à Marseille-Cassis, qui pourtant est du bitume, mais j'ai adoré cette ambiance que l'on peut avoir avec tous ces gens qui sont là d'univers tellement différents et qui viennent pour 50 000 raisons différentes faire cette course. C'est extraordinaire. Voilà. Et je pense qu'il faut le vivre au moins une fois. Alors, sans commencer peut-être par un semi, mais maintenant, il y a tellement de petites courses, des 5 km, etc., des runs associatifs, solidaires, qui permettent de s'initier un petit peu à ça et de voir si ça peut plaire ou pas. Mais je pense que quand on y a goûté, voilà, et qu'on l'a fait pour les bonnes raisons, surtout, qu'on le fait pour les bonnes raisons, eh ben, on ne peut que aimer.
Je suis assez d'accord. Les bonnes raisons, tu fais bien d'insister,
voilà.
Mais une fois qu'on est au clair là-dessus,
c'est ça.
Effectivement, méfiez-vous, c'est facile de tomber dedans et de d'avoir du mal à en ressortir.
Oui, exactement. Mais ça peut être la course à pied, ça peut être tout autre chose. Hein.
Voilà. Oui, bien sûr. Ouais.
Là, on parle de course à pied, mais comme on a dit, c'est agir pour soi et avant tout. Voilà. Et puis après, le reste vient se greffer tout autour. Mais c'est savoir ce qu'on veut et pourquoi on le veut. Voilà.
Super message. Écoute, un grand, grand merci, Alexia. Je me suis régalé. C'était génial d'en apprendre plus sur ta pratique, de mieux comprendre aussi la façon dont tu abordes le trail, la course à pied en général. Si les gens veulent te suivre, c'est quoi le mieux? C'est t'as Instagram, Strava?
Oui, sur Insta. Et comme je dis sur Insta, donc c'est Alexia Coudray, hein, tout simplement, comme mon nom et comme mon prénom. J'ai rien à cacher. Donc sur Insta, c'est le plus simple. Et puis mon petit mot, c'est passionné de sport outdoor
et accessoirement
prof de PS.
Voilà. Yes, athlète Simalt. Excellent. Je mettrai le lien en description de l'épisode. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Peut-être un de ces jours, du coup, une fois que j'ai reçu mon gravel, pour aller tester un peu le Ventoux.
Alors. Expérimenter les pentes du Ventoux et pas seulement que les cailloux, parce qu'il y a plein de choses bien sympathiques à faire. Ouais.
Yes, trop bien. Merci beaucoup, Alexia.
Merci à toi. À bientôt.
Ciao, ciao. À bientôt. Merci d'avoir écouté cette conversation avec Alexia jusqu'au bout. J'espère que ça aura donné envie à quelques-uns d'entre vous de vous mettre au trail. Envoyez-moi vos feedbacks sur le compte Instagram du podcast lesfrappés.podcast ou par email à hello@lesfrappés.com. Je vous propose chaque semaine du contenu entièrement gratuit que je m'efforce de rendre le plus qualitatif possible. Je fais absolument tout seul, ce qui demande énormément de temps et d'énergie. Pour valoriser mon travail et remercier tous ces frappés inspirants que je reçois, prenez quelques secondes maintenant pour laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast. Pensez également à partager cet épisode autour de vous à toutes les personnes qui sont intéressées par les sujets d'aventure et de dépassement. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode exceptionnel avec un homme qui vient de remporter une course de 1600 km en Alaska.